Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les murettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous ouvrons nos écotilles à un amoureux des compositions du jardin et notre héritage paysager. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Hervé Seguet. Alors je suis professeur en aménagement paysager au lycée Biotech de Douai, anciennement lycée agricole de Douai-Wagnonville. Je suis aussi formateur au CFA UFA CFPA donc de Tilloy-les-Mouflaines. Je travaille dans cet établissement donc à Douai depuis 1986. Donc c'est pas tout jeune tout ça. J'ai été formé ici dans une conception très horticole du paysage où on était amené à planter moult plantes annuelles qui demandaient énormément de soins, énormément de fertilisants, d'attention aussi et d'une lutte sans cesse contre les plantes adventices dites mauvaises herbes. J'ai eu la chance de faire un stage sur les jardins médiévaux, qui n'était pas passionnant pour moi au départ, mais qui l'est vite devenu. Et cela m'a donné envie de créer un jardin médiéval, où j'ai fait, à partir des recherches documentaires historiques, un jardin, je pense, relativement complet, où j'ai dû installer quand même des zones plus naturelles. Et c'est là où j'étais très étonné de voir la flore, la faune s'installer, des plantes que l'on pouvait retrouver à l'époque médiévale. Et ça m'a fait changer la vision des choses concernant les aménagements paysagers. De ce fait, aujourd'hui, lorsque j'aménage au lycée, je prends en compte le développement durable, mais aussi l'installation de végétaux adaptés à notre région, adaptés à notre climat et je dirais bientôt adaptés au changement climatique. Je suis un amoureux des pierres, donc j'ai même une association dont je suis le président depuis 40 ans sur la restauration du petit patrimoine de village, en particulier sur le valenciennois. Le fleurissement, j'adore le fleurissement aussi, composé avec des végétaux, quand on me le demande pour des mariages ou autres. Je ne fais pas de publicité pour m'embaucher, bien sûr. Mais voilà, je suis très attaché à la nature, la visite des jardins, la visite des sites historiques, des sites naturels aussi. De la marche aussi, de la découverte, des plantes dans d'autres régions comme la Bourgogne où mon fils s'y trouve et où quand je vais le rejoindre, on me demande de faire des petites balades donc en marche nordique avec la découverte des plantes locales. Donc c'est pas toujours évident parce que je connais bien celle de la région des Hauts-de-France. La Bourgogne un peu plus compliquée et pourtant très très riche.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Alors la couleur, ce serait le vert. Normal, c'est la nature. Le vivant. Bah, en fait, il faut s'émerveiller. Moi, je pense quand on voit une fleur, de la voir de plus près, même quand elle est petite. Et d'ailleurs, une autre passion, c'est la photo. Et lorsqu'on fait de la macro, qu'on regarde un petit peu comment est constituée une plante, on pourrait dire que la nature est bien faite. Après les odeurs de rose. C'est un parfum que j'aime beaucoup, parce que chaque rose a un parfum différent. Et en fermant les yeux, on peut essayer de deviner si elle a un parfum citronné, acidulé, ou sucré, ou autre, ou fruité même. Donc j'aime bien aussi les roses. Mais dans le jardin, il m'arrive parfois de planter des végétaux un peu bizarroïdes, comme les endives, qui permettent de voir un petit peu cette magnifique fleur bleue qui attire de nombreux insectes et qui là aussi, alors les insectes, c'est peut-être une nouvelle passion aujourd'hui de prendre en photo ces petits animaux qui sont en train de faire vivre le monde, puisque c'est grâce à eux si nous pouvons manger, si nous pouvons déguster de très très bons légumes, fruits.
Un goût ?
Je dirais la menthe. Je pense que la menthe est riche en parfums et puis de toute façon on sent bien quand on prend de la menthe que ça dégage le nez, que ça nous donne un petit coup de pulsion et j'aime bien ce goût de la menthe qui est une puissance quand même pour te donner de l'énergie, une texture. Ça va être bête un petit peu, je vais partir sur de l'agronomie, mais simplement la terre. Tu prends différentes terres, tu as différentes structures. Tu peux fermer les yeux et puis essayer de deviner quel type de terre que tu as entre les mains. Ben, je reviendrai peut-être le sable. Pourquoi ? Parce que ça file entre les mains et c'est le temps qui passe. Le son, alors tu sais, une chose que je n'ai plus parce que on vieillit, c'est le silence. Je l'ai connu ça une fois dans la vie, c'était impressionnant. Et c'est ce qui m'a marqué le plus. Par contre, si on parlait vraiment de son, ça serait le chant des oiseaux le matin. Quand tu te lèves à 5h du matin, que le jour est en train de poindre et que... Il y a un concert qui se fait dans les jardins.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
J'ai passion des plantes et passion des vieilles pierres. Et je trouve que je travaille beaucoup avec la symbolique. Que ce soit dans la composition de bouquets, par exemple, que ce soit dans la composition des jardins. Un jardin doit avoir une âme. Chaque jardin est individuel. Chaque jardin, on le ressent comme on veut, comme un bouquet. Hein. En fait, on m'a dit une fois, les bouquets, c'est parfois une œuvre d'art. Il ne faut pas expliquer un bouquet, il faut que les gens se soient sensibilisés. Donc après tout, je pense que ouais, je travaille beaucoup avec la symbolique.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant.
Et c'est une question qui est embêtante parce qu'en fait, je suis jardinier et je voudrais que la nature prenne plus de place dans nos jardins. Moi, je dirais que mon jardin idéal, ça serait un fouillis organisé où l'homme paraît très peu. En fait, j'aime bien les jardins paysagers, jardins anglais. Là-dessus, pourtant j'aime bien aussi les jardins à la française, mais c'est trop anthropisé, donc on voit que la nature ne peut pas s'exprimer. Les jardins anglais, la nature s'exprime, c'est aussi l'origine du paysagisme, travailler avec le paysage, il n'y a pas de limite, et ça c'est quelque chose qui me plaît bien, mais il faudrait que aujourd'hui, surtout les Français et les Françaises arrêtent de contrôler les végétaux, de les tailler par d'arbitraires taillures qui ne servent à rien pour avoir des formes patatoïdes, ce qu'on appelle le syndrome de Versailles aigu, que j'emploie souvent comme terme. Et ça serait bien mieux que les gens observent le végétal dans son développement naturel et qu'ils respectent aussi la nature. Pas de déchets, pas de produits, pas de... Enfin, tout ce qui pourrait nuire à la nature.
On va passer à la question d'actualité. Le 13 mai dernier a été rendue publique une étude de l'Institut national de l'information géographique et de l'ADEME portant sur la neutralité carbone et les ressources en bois disponibles à l'horizon 2050. Cette étude a été commandée par le ministère de l'Agriculture et celui de la Transition écologique. Elle doit permettre de fournir des chiffres sur l'atténuation du changement climatique et les ressources en bois disponibles via plusieurs scénarios, où varie le niveau de récolte du bois, les effets du changement climatique et la stratégie du renouvellement des forêts d'exploitation. Plusieurs impératifs émergent pour que le scénario neutralité carbone soit viable, notamment via une évolution des pratiques sylvicoles, pour ajuster la récolte de bois en fonction de l'état des peuplements. Cela signifie que la consommation de bois doit être modulée d'année en année pour éviter de mettre en péril l'écosystème. In fine, il semblerait que le marché du bois soit poussé à avoir un regard sur la résistance du système à sa propre exploitation, et ce, malgré une hausse de la demande en bois. Ainsi, recyclage et réemploi doivent à présent répondre à cette question. De la même façon, il est pointé l'extrême nécessité d'adopter une politique de renouvellement où les essences plantées sont cohérentes avec les conditions du milieu. Car l'étude le rappelle, plus les effets du dérèglement climatique seront importants, et plus la filière bois aura un rôle prépondérant pour sa régulation, allant jusqu'à influencer 80% du bilan carbone dans les pires scénarios climatiques. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
En fait, si on dit que ça y est, le filon, c'est le bois, je voudrais rappeler quand même que au Moyen-Âge, on a énormément défriché. On n'a pas replanté, bien sûr. Bon, bien sûr, là, ici, il y a une volonté de replanter, mais un arbre ne se forme pas en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années. C'est quand même en dizaines d'années. Je demande à voir, parce qu'en fait, je ne suis pas dans la sylviculture, mais je voudrais voir un petit peu quels sont les bois qui seraient très intéressants, qui produisent assez rapidement, mais c'est surtout le renouvellement. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que on aille dans d'autres pays pour aller chercher le bois qui nous manque. Donc je ne sais pas. Et on a, je pense, aussi un autre problème, c'est que on a une agriculture qui est très développée, qui est encore toujours et encore intensive. Et je ne pense pas qu'on soit prêt à libérer des terres agricoles pour planter des forêts, de nouvelles forêts. Alors, il faudrait peut-être des projets citoyens, justement, pour peut-être acheter des parcelles de bois. Donc chaque citoyen achète ça mesure une petite quelques mètres carrés, etc. En association, on replante des forêts, ça serait bien utile. Quant à l'exploitation du bois, je demande quand même à voir.
Pour rappel, il existe le GEFC, Groupe écologique forestier citoyen, où on peut acheter à hauteur de 100 euros minimum une parcelle forestière et ainsi, en tant que citoyen, participer à préserver écologiquement des forêts.
L'arbre est notre avenir, peut-être ce qui va peut-être nous sauver peut-être du réchauffement climatique, et encore, je ne me demande pas si on n'est pas trop déjà en retard. En rencontrant différents grands personnages scientifiques, techniciens et autres, je pense que les arbres sont notre avenir, c'est sûr, à tous les niveaux, mais déjà pour lutter contre le réchauffement climatique. Après, concernant l'utilisation du bois à des fins humaines pour X choses, là je suis plus dubitatif. Et je pense qu'il faudra trouver d'autres énergies renouvelables et de bien faire attention de ne pas surexploiter nos forêts et les bois.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Eh bien, des rendez-vous au jardin, hein, début juin. Donc moi, personnellement, je serai à Arkéos, à Douai, hein, pour présenter un potager carolingien que nous avons reconstitué avec la classe de première pro aménagement travaux paysagers. C'est le week-end où les jardins sont ouverts. Certains sont payants, certes, d'autres sont gratuits, mais je pense qu'il faut aller faire un petit tour, voir un petit peu le travail des passionnés. On parle bien de passionnés qui nous font découvrir leurs aménagements, comment ils ont travaillé avec et non contre la nature, l'association des végétaux, des couleurs, des parfums, enfin, plein de choses. Alors allez découvrir les rendez-vous au jardin, ça vaut vraiment le coup. Arkéos se trouve à Douai-Frémarais. Donc c'est le site archéologique qui reconstitue une partie de l'époque médiévale qui est le Haut Moyen-Âge. Là, il y a un portus, il y a une tour féodale, il y aura sans doute des animations. Pour nous, au niveau de l'établissement, nos animations, c'est plantation donc, de végétaux de l'époque de Charlemagne, où nous expliquerons un petit peu leur utilité, leur fonction. Pourquoi ce capitulaire de Charlemagne ? La chaîne est cassée, la licorne est dans le jardin et les enfants sont un peu déçus, mais courent dans tout le jardin pour essayer de trouver la licorne. Thank you.
tu y as pêché où, baobab, acajou ?
Cet épisode à réécrire le nom des végétaux avec les couleurs et la poésie du jardin prend fin. La semaine prochaine, le vivant réclame notre attention sur de nouvelles feuilles de choux fraîchement cueillies.
Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.